Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la troisième émission du collectif CHU Action Santé, le cri du bistouri. Cette émission a pour but d'informer et de mobiliser pour défendre la santé publique dans tous ses aspects. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter une table ronde sur les besoins de la santé et du financement de ces besoins. Bonne écoute.
Le cri du bistouri, une émission sur la santé proposée par le collectif CHU Action Santé, animée par Hélène Cordon et Agnès Moussion.
Bonjour, le cri du bistouri, c'est 5 émissions hebdomadaires avec débats, échanges, témoignages, expertises proposées par le collectif CAS CHU Action Santé, qui regroupe Attaque 44, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, avec Nantes, Association de veille écologiste et citoyenne, la CGT-CHU, la FSU, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, la France Insoumise, Nantes en commun, le NPA Nantes, Saint-Herblain en commun et YFC, les Jeunes pour le Climat.
En ce début d'année 2022, le système de santé français se trouve dans une situation extrêmement difficile pour les personnels et inquiétante pour les usagers. L'organisation actuelle ne répond plus aux besoins de la population. Les exemples de problèmes d'accès aux soins se multiplient, déserts médicaux, délais d'attente très longs pour certaines spécialités médicales, dépassement d'honoraires, renoncement aux soins, manque de soignants, perte de chance pour les patients. La situation est tellement dégradée qu'elle nécessite une réflexion poussée et un investissement de tous ceux qui ne souhaitent pas le passage d'une santé publique à une santé privée.
Bonjour, l'émission de la semaine dernière a permis de présenter le secteur du médico-social avec des témoignages de soignants et de soignantes dans les domaines comme l'assistance de vie sociale à domicile, l'assistance aux personnes en difficulté ou en précarité, la protection de l'enfance et l'aide aux personnes en situation de handicap.
Aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde pour parler des besoins de la santé et des financements de ces besoins. Avec nous en visioconférence, Pascal Caboret, médecin généraliste, membre du syndicat SMG, le syndicat de la médecine générale, Jean-Luc Landas, militant de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, membre du bureau national de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité et praticien hospitalier retraité, et Robert Dronneau, du syndicat CSF, la Confédération syndicale des familles. Tous les trois sont également membres du collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous.
Pour commencer cette table ronde, peut-être pouvons-nous définir la santé d'une part, ainsi que les besoins de santé, et s'interroger sur qui est compétent pour statuer sur ces besoins. Jean-Luc, veux-tu prendre la parole ?
Oui, moi je voulais quand même au préalable rappeler, parce que je pense qu'il faut partir de là. Qu'est-ce que c'est que la santé ? Avant de partir des besoins de santé, il faut d'abord définir ce que c'est que la santé. Et la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est tout simplement l'état de bien-être physique, mental, ou psychique, c'est la même chose, et social. Il ne faut pas oublier ce dernier point, social. Donc en fait, ceci définit des besoins primaires en santé, qui sont tout simplement l'eau, l'accès à l'eau, à une eau potable, l'accès à la nourriture, une nourriture de qualité, l'accès au logement, l'accès au travail, vivre dans un environnement qui ne soit pas pollué par le bruit, qui en lui-même génère des maladies, des pathologies. Voilà ce que c'est que les besoins de santé, mais la principale question, c'est qui les définit et selon quels critères. C'est-à-dire, et actuellement, je crois que il y a une propension à définir les besoins de santé, non pas en termes de besoins, mais en termes de quel coût on veut y consacrer. Et donc, satisfait à quel coût. Et la question de qui les définit me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on pense bien que, bien sûr, il doit y avoir d'un côté les professionnels de santé publique qui peuvent donner leur avis là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Et on a quelques exemples récents dans la région d'interventions citoyennes qui mettent en doute ces définitions de besoins de santé. Et je voudrais prendre simplement deux exemples. Le premier exemple est l'association des parents d'enfants qui sont victimes de cancer dans une partie du département et qui s'interrogent en disant mais quelles sont les causes et qui sollicitent l'avis à la fois des instances et des chercheurs. Et je trouve que c'est un excellent exemple de l'interpellation citoyenne des gens, des professionnels de santé. Et là-dessus, tout de suite, une remarque, ce n'est pas parce que les chercheurs ne trouvent pas de cause qu'il n'y a pas de cause. Et le deuxième exemple, c'est celle des dockers de Nantes-Saint-Nazaire, et qui se sont interrogés à partir de la constatation que beaucoup d'entre eux mouraient un peu avant l'âge de la retraite ou juste après l'âge de la retraite de cancer, et toujours des mêmes cancers. Donc là, même chose, interpellation là par voie syndicale du milieu de la recherche en disant « il y a un souci », d'où enquête, etc. Et on a trouvé des relations entre en fait la multiplicité des expositions aux toxiques dû à leur métier de docker, ils transportent des choses, et avec aussi un intérêt, c'est que leur travail est extrêmement codifié, parce que c'est suite à des luttes syndicales intenses dans le domaine, où en fait on peut tracer chaque poste de travail des dockers tout au long de leur vie professionnelle. Donc on peut retrouver quelles ont été les expositions et la durée de ces expositions.
Donc les deux exemples que tu viens de citer montrent la nécessité de développer l'interpellation citoyenne en regard de ce qui est proposé par les institutions, par les collectivités, le gouvernement, les ministères, et de voir si le besoin de soins est satisfait ou pas.
Et là-dedans, l'accès aux soins et aux structures de soins n'est qu'une toute petite partie de la santé. C'est quand la santé se dégrade, il y a besoin effectivement d'un accès aux soins, mais avant, il y a toute une série d'interventions dans tous les domaines que j'ai cités qui sont absolument nécessaires pour garantir l'égalité de chacun et chacune d'entre nous devant les besoins de santé.
Pascal, un complément sur les besoins de santé ?
On peut avoir deux approches. Une approche qu'on pourrait définir comme plus objective, avec des recueils, des déterminants de santé, bon, qui se reposent essentiellement sur les travaux de santé publique, hein, tenant compte, comme l'exprimait très bien Jean-Luc, sur le niveau de revenus, les conditions de travail, l'environnement physique, etc. Et je faisais allusion à une étude qui avait été menée par sur Nantes entre 2000 et, de mémoire, c'est 2000 et 2009. Hein, on trouve ça sur le document de la Direction générale déléguée à la cohésion sociale, une étude sur l'état de santé de la population, et on constatait à travers cette étude, par exemple, des différences importantes en fonction des quartiers. On avait, par exemple, 50% de décès masculins qui survenaient avant 65 ans dans des zones urbaines sensibles comme Bellevue, Bourderie, Dervalière, Breil, quartier nord, Bottière et Pourboyer. Et plusieurs explications avaient été données sur ces décès prématurés comme étant par exemple un temps lié au taux de chômage, au taux de pauvreté plus élevé, avec une densité de médecins plus faible. Il s'agissait de zones urbaines sensibles, plus exposées à des points du bruit ou des risques industriels. Et puis, il y a en même temps, donc on est face à une approche objective des besoins de santé, mais il y a aussi une approche plus subjective. Et un quartier, une population de quartier, peut aussi définir des besoins divergents d'une autre type de population. Moi qui ai travaillé pendant un certain temps en médecine générale sur le quartier Bellevue, je me suis aperçu que suivant les lieux, on avait des cultures différentes et des demandes tout à fait différentes, qu'il fallait tenir compte de cette différence en sachant que les populations n'étaient pas exposées, n'avaient pas le même rapport aussi à la santé.
On va faire une première pause musicale avec la chanson « Mon docteur » de la Grande Sophie.
Il m'appelle au secours quand il est malade, je le guéris toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien. Quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine, des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. On peut même voir sa fille en photo. Il a besoin de parler. Tout ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il a sur le cœur. Il peut tout me dire. Il me parle de sa vie, il dit qu'il l'a ratée. Mon docteur ne va pas très bien. Il prend dans sa main son stylo à encre et me dit c'est certain, demain je m'ouvre le ventre. Mon docteur ne va pas très bien. Il est là derrière son bureau. Il a mis un costume à carreaux. Il a besoin de pleurer.
Certains besoins de santé sont financés par territoire, c'est le cas pour la protection de l'enfance, financée principalement par les départements, et ça crée de fait des inégalités de territoire. Quel est votre point de vue à ce sujet ?
La même chose pour les personnes âgées, avec la définition des classes qu'on appelle GIR, G-I-R, et qui sont différentes selon les départements, et qui donnent droit à des aides départementales qui sont différentes selon les départements. Il vaut mieux vieillir dans un département riche et qui veut consacrer de l'argent aux personnes âgées, ce qui n'est pas évident. C'est tout simplement le fait que ce ne soit pas une politique nationale, mais une politique départementale ou régionale. Et là, on peut se poser des questions sur des conséquences de ce qu'on en a appelé la départementalisation. Ça aboutit à des inégalités. C'est-à-dire qu'il aurait fallu au minimum avoir d'abord des critères égaux entre tous les territoires et entre tous les départements, et puis deuxièmement, avoir un minimum, ou définir au moins un plancher, quoi. Alors que oui. Là, il n'y a rien de tout ça. Les départements font absolument ce qu'ils veulent, et avec des départements qui sont plus pauvres que d'autres. Ça, c'est absolument une réalité. D'où la nécessité de revenir à des critères nationaux appliqués localement en fonction, effectivement, des besoins locaux. Et c'est vrai que la proximité permet de mieux voir, de mieux sentir, de mieux évaluer les besoins, et surtout permet une interpellation citoyenne. La proximité, c'est ça. Tout ce qui est lointain est difficile à interpeller pour les citoyens. On ne voit pas la relation entre les décisions qui sont prises et celui qui décide ou celle qui décide. Et on le voit bien dans le système de soins. On le voit très, très bien dans le système de soins.
Je pense que dans cette distribution inégale de l'offre de soins, il y a pour moi un danger qui concerne le pacte républicain. Je vais aller un peu plus loin que Jean-Luc, hein, parce que si on a une offre de soins qui est éclatée de façon inégale sur le territoire, où va se concurrencer en part de marché des acteurs, notamment au niveau hospitalier clinique, des acteurs privés, publics, mutualistes, où on a une répartition différente de l'offre de soins primaires, des médecins généralistes, des infirmières, des sages-femmes, où finalement les citoyens vont être en concurrence un petit peu les uns avec les autres. On va avoir par exemple des patients de Sarthe-Mayenne qui viennent sur Nantes pour trouver des médecins spécialistes en dermatologie, en cardiologie, puisqu'ils ne les trouvent plus dans leur département. Si en même temps, on a un financement qui est multiple, qui est éclaté, avec des assureurs privés, des apports financiers personnels qui doivent combler les restes à charge, les dépassements d'honoraires, etc., on va aussi creuser les inégalités dans l'accès aux soins. Et là, on a tous les éléments qui participent à une fragmentation du principe d'égalité dans l'accès aux soins. On revient à l'adage du CNR, hein, chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. On s'en éloigne de plus en plus. On pourrait interroger Robert sur cette question, c'est un sujet qui lui est très cher.
Nous, à la CSF, on a surtout essayé de voir concrètement ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, quoi. Autrement dit, tous ces constats-là, ça nous éclaire, mais ça nous oblige aussi à ne pas rester les bras croisés. C'est pour ça qu'on a pensé que l'organisation de la réaction doit être collective, que la CSF en elle-même est très insuffisante, même si elle fait un travail complémentaire des autres. Mais c'est pour ça qu'elle s'est rattachée au collectif Droit à la Santé, et que lui-même, le collectif, est rattaché à la coordination nationale dont Jean-Luc parlait tout à l'heure. C'est pour ça que nous, on a pensé, pour l'accès, d'abord agir sur des causes, quand c'est possible. Alors, on a un exemple très concret. On a un copain qui s'appelle Joseph. Il agit au niveau du CODERF, le Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. On dit sur les captages d'eau potable au niveau départemental, et il agit en partenariat avec UFC Que Choisir. Et toutes les actions qui sont menées, la CSF et FC Que Choisir donnent leur avis pour lutter contre les causes de la pollution de l'eau potable. Parce que si on se contente de dire l'eau potable, elle n'est pas potable, ou les pesticides, ça emmerde tout le monde, mais si personne ne fait rien. Donc là, je pense que c'est un organisme très concret qui permet d'agir et petit à petit d'arriver à influencer tous les acteurs sociaux, y compris les agriculteurs qui, pas tous, mais en partie, par les pesticides notamment, polluent les plateaux de captage d'eau potable. Alors ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples aussi, c'est d'alerter la population. Donc on a, avec ce copain Joseph, on a fait des soirées sur la qualité de l'eau. Donc c'est un copain de la CSF qui est un retraité, mais qui était prof et qui a beaucoup de compétences dans le domaine. Et il a alerté la population sur toute l'importance d'une qualité de l'eau. Et puis aussi sur la possibilité de permettre à tous d'accéder, par exemple, au bio. Donc, il disait, on ne doit pas laisser la loi du plus fort dominer la population. Par exemple, les supermarchés qui contraignent les agriculteurs à des prix bas, ça contribue à l'agriculture intensive, donc de mauvaise qualité.
Moi, je trouve intéressant quand même la manière d'aborder les choses par Robert, parce que c'est vrai qu'on avait conjointement, dans le cadre de la CSF, réfléchir à ces questions et aux modes d'action. Je vous prendrai aussi un cas particulier sur la question de l'eau. Moi, il me semble que les citoyens, leur part, une part importante dans leur mobilisation pour faire infléchir les pouvoirs publics, parce que moi, je vais prendre un exemple très précis. Nous savons que les établissements hospitaliers ou les EHPAD sont des hauts lieux de production de produits toxiques. Il y a des produits désinfectants, l'antibiothérapie, l'iode radioactif, la chimiothérapie, etc. Et il est fortement recommandé d'effectuer un pré-traitement des eaux usées directement à la sortie de l'hôpital. Différentes propositions ont été faites. Moi, à titre personnel, je l'ai fait avant le projet de reconstruction de mon établissement hospitalier, et ça a été refusé par les élus, membres du conseil d'administration et aussi par l'ARS, parce que c'était beaucoup trop coûteux et c'était pas quelque chose d'obligatoire. Je ne sais pas si c'est envisagé pour le CHU de Nantes. Donc, il y a toute une réflexion qui est menée par les associations au niveau local et européen sur la question des eaux usées. Tout ce qui se passe actuellement au niveau des eaux usées et qui n'est pas éliminé par les différents modes de traitement et qui nécessite une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus incisive.
Alors on commence à bien cerner les besoins de santé, ce que ça représente, comment on peut les identifier, comment on pourrait les mettre en œuvre nationalement et par territoire. J'aimerais maintenant qu'on parle des enjeux. Alors c'est très proche, hein, les besoins et les enjeux de santé. Qui veut prendre la parole sur les enjeux? Oui, Robert.
Les enjeux pour nous, en tant que consommateurs à la CSF, c'est l'accès aux soins. Bien sûr, on a parlé de la prévention, agir sur les causes, ça c'est un des aspects, mais aussi toute l'information et la sensibilisation de la population, comment dirais-je, au détricotage notamment de la sécurité sociale. Ce n'est pas nouveau, parce que depuis sa création, l'histoire a été bien relatée dans le film La Sociale. Donc, un de nos chevaux de bataille, c'est bien d'agir pour un meilleur accès aux soins, mais par là même en sensibilisant la population. Et on a vu que la projection du film La Sociale a été un déclencheur pour beaucoup d'une prise de conscience, parce qu'après une séance au mois de mars l'année dernière, et on en a eu deux depuis, qui ont été faites notamment pour la CSF. Et on veut s'orienter vers les séances des projections, vers les jeunes, notamment du côté de Rosé, vers le lycée Jean Perrin. Pour l'instant, c'est une démarche. À travers ça, on a aussi une sensibilisation depuis longtemps pour refuser les dépassements d'honoraires. Là, les dépassements d'honoraires, c'est un obstacle majeur, puisque les déserts médicaux existent, mais aussi les déserts médicaux, pas que dans le milieu rural, mais aussi en ville. Je vois par exemple, pour passer des radios maintenant, c'est pratiquement impossible de tomber sur un médecin en secteur 1. J'ai contacté récemment un labo pour des besoins personnels. Il n'y a qu'un seul médecin au CHU qui était en secteur 1 pour me passer un IRM. On s'aperçoit aussi que les gens prennent conscience, suite à une séance, à une soirée cinéma, sur le social, il y a un copain qui s'appelle Louis-Marie qui a refusé un dépassement d'honoraire. Il a envoyé une lettre. Il a réussi à se faire exonérer de ses dépassements d'honoraire. Cette lettre-là, je l'ai envoyée à un autre copain qui a fait aussi boule de neige et qui a permis concrètement à lui aussi de refuser ces dépassements d'honoraires. Et pour la petite histoire, il va y avoir bientôt l'inauguration de la maison de santé, je dis bien maison de santé, à Bellevue, qui est ouverte depuis le début janvier. À cette ouverture-là sera projeté le film La Sociale. Il y a aussi le Théâtre des Opprimés qui nous a demandé de citer des exemples de dépassement d'honoraires ou de non-accès aux soins pour le populariser à travers un théâtre. Je trouve que c'est des actions concrètes, pratiques, qui peuvent aider les gens à prendre conscience. La CSF, à travers l'histoire de la sécurité sociale, on est en préparation de faire un petit dépliant sur le détricotage de la Sécu. Donc pour l'instant, c'est au stade de l'élaboration. Et là aussi, c'est aussi pour conscientiser la population.
Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que expliquait Robert sur les réponses individuelles, notamment face au dépassement d'honoraires qui pose problème dans l'accès aux soins. Moi, je suis un peu prudent dans ces réponses individuelles parce qu'elles doivent, à mon avis, être collectives. On ne doit pas laisser le patient seul négocier avec le praticien la diminution ou l'absence de dépassement d'honoraires. On est face à un enjeu majeur, hein, c'est ce qu'on a défini entre nous comme étant du reste à charge, c'est-à-dire des dépenses de santé qui ne sont plus couvertes actuellement par l'assurance maladie et qui prend des proportions importantes. Hein. Ce reste à charge, il se construit année après année, mais qui est lié à l'augmentation du forfait hospitalier, des participations forfaitaires, je pense notamment en 2006, les 18 euros pour les actes lourds, les franchises sur le remboursement des soins, les déplacements d'honoraires pour les médecins secteur 2, des remboursements progressifs des médicaments, etc., etc. Et on arrive à des restes à charge qui sont majeurs, hein, suivant les études, tournent entre 600 et 800 euros par an et par personne, donc qui vont exclure progressivement des patients de soins. La réponse, elle doit être collective. On ne doit pas individuellement s'opposer, c'est trop dur individuellement pour s'opposer à ce type de pression.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exclure. Non. Mais c'est vrai, on ne peut pas l'exclure. Non. Quand il y a des gens qui veulent le faire, ils le font. Mais en revanche, c'est extrêmement minoritaire. Alors qu'effectivement, l'action collective devrait aboutir à la suppression, à l'interdiction de ces dépassements d'honoraires, qui sont une véritable honte. C'est très clair. En revanche, que certains actes médicaux doivent être réévalués, dont le remboursement par la Sécu doit être réévalué, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est collectivement que nous acceptons de dépenser plus pour tel ou tel acte. Et donc, ça sort plus directement de la poche de quelqu'un et qui remet en cause très clairement le principe de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.
La problématique posée depuis 40 ans est celle du financement de la santé, qui coûte, selon les gouvernements successifs, trop cher, toujours beaucoup trop cher. Donc, dans une logique libérale, il faut réduire les coûts de santé et, pour faire cela, il faut réduire l'offre de soins du service public. Cela a tellement bien fonctionné que le service de santé public est en très grande difficulté actuellement. Les ressources qui permettent de financer la santé publique proviennent des cotisations sociales pour une grande partie et des impôts pour une partie moins importante, mais qui tendent à augmenter au fil des années. Or, les ressources tendent à diminuer suite au choix de l'État de réduire la part cotisation sociale pour alléger les charges des entreprises et de fait pour réduire la charge d'impôts des particuliers et des entreprises. En économie, Becker a théorisé sur la notion de capital humain en montrant qu'une population bien éduquée et en bonne santé est favorable au développement économique. Est-ce que c'est un concept qui est recevable pour vous ?
Le véritable problème des hôpitaux, pas que celui de Nantes, de tous les hôpitaux, c'est que ce sont des hôpitaux que l'on appelle maintenant des hôpitaux entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il y a des actionnaires. Ça veut dire qu'il est géré comme une entreprise. Et donc, c'est ça que nous combattons en disant que non, Construire un hôpital, c'est tout simplement organiser le territoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le soin et avec le fait que la sécurité sociale a été créée pour rembourser les dépenses de soins, absolument pas pour construire des hôpitaux. Il s'agit d'un détournement. Et donc, en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la PMI et sur les personnes âgées. Et ben, en fait, on va pouvoir construire des hôpitaux là où les hôpitaux font le plus de j'allais dire, entre guillemets, de bénéfices. Ou racle sur les fonds de tiroir, racle sur les dépenses en personnel. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on ne juge l'hôpital que sur sa bonne santé financière et non pas sur le fait qu'il répond ou non aux besoins de santé, plus exactement aux besoins de soins. C'est-à-dire qu'un hôpital peut avoir des excellents résultats financiers, comme celui du CHU de Nantes, mais avec le fait qu'il ne peut pas recevoir tous les malades qui voudraient y être, et les renvoie vers le privé, par exemple pour les scanners, pour les IRM. Il transfère des femmes ou des couples qui font suivre leur grossesse à la maternité publique pour les envoyer dans le privé. Or, le privé n'est pas égal au public. C'est différent. Il ne répond pas, aux mêmes besoins et de la même manière. Le privé pratique, qu'il le veuille ou non, une sélection sociale. Je ne parlerai pas, même pas de la pédopsychiatrie, des reports d'intervention, etc. Autrement dit, l'hôpital ne fonctionne pas bien, même si sa santé financière est bonne. Et je dirais même, c'est parce que sa santé financière est bonne qu'il fonctionne mal. Justement, dans les enjeux de santé, ce n'est pas la même chose de donner une autorisation pour une structure privée d'accueil de personnes âgées et de la donner pour une structure publique. Ce n'est pas la même chose d'avoir, même l'une en face de l'autre, des urgences privées et des urgences publiques, car elles ne font pas, elles ne rendent pas les mêmes services à la population malade. Voilà. Et là-dessus, il suffit d'aller lire le travail de Sylvie Morel, maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes, qui a parfaitement décrit le système de sélection sociale aux urgences.
On a essayé, au cours de cette émission, de montrer la nécessité de répondre aux besoins de santé de la population dans un objectif de justice sociale. On a aussi insisté sur le fait que l'égal accès aux soins pour toutes et tous sur le territoire était un enjeu de cohésion sociale dans la nation. Et on voit bien la difficulté actuellement au sein de la nation sur ce thème de la cohésion. Oui. Moi, je suis en total désaccord sur une conception de la santé en termes de dépenses et même en termes de capital humain. Ça, c'est une approche, on va prendre un grand mot, hein, c'est une approche capitaliste du sujet social. La sécurité sociale, dans son principe, elle a établi un nouveau partage de la richesse, du produit intérieur brut, pour assurer une couverture sociale. Et c'est le principe, c'est la cotisation sociale, c'est du salaire qui est converti en prestation sociale collective, qui va financer, historiquement, c'est les moins le cas actuellement, mais qui doit financer l'investissement hospitalier et échapper de ce fait au crédit, finance les retraites qui sont du salaire, finance le salaire des soignants qui sont ainsi reconnus comme des producteurs de valeurs économiques, mais aussi d'une utilité sociale majeure. Mais là, on est face à un enjeu du financement et du salaire qui n'est plus de l'ordre des institutions capitalistes. Donc on a tout intérêt, je comprends que le capital a tout intérêt par rapport à l'aspect révolutionnaire de la cotisation sociale, de la sécurité sociale, de remettre le discours sur la question de la dépense, du capital humain, et plutôt que d'aller sur le champ de la cotisation sociale, où tout est fait depuis de dizaines d'années pour la mettre à bas et la détruire.
Actuellement, il y a des discussions avec l'État sur le 100% sécurité sociale et la remise en cause des mutuelles. Avez-vous un avis sur ce point-là ?
Oui, oui, tout à fait, oui. L'enjeu, il est simple. Parce que c'est 100% de quelle sécurité sociale ? Si c'est un panier de soins minimum, la réponse est non. Très clairement, non. En revanche, si c'est 100% d'une sécurité sociale globale qui rembourse tout, oui. La réponse est oui. Car la question qui est à trancher par les citoyens, c'est quelle somme veut-on dépenser pour avoir un accès, une réponse à nos besoins de santé, qui, là aussi, ne sont pas uniquement des besoins de soins. La sécurité sociale ne répond qu'aux besoins de soins. C'est déjà ça, mais c'est loin d'être suffisant. Et à partir de cela, la réponse, elle a été tranchée en 1995 à l'Assemblée nationale par Juppé, Premier ministre à l'époque, et donc qui a fait voter le principe de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui est voté tous les ans à l'Assemblée nationale avec un principe corollaire, qui est de dire qu'on n'augmentera pas les cotisations sociales. Elles sont figées. Donc actuellement, depuis 1995, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, eh bien, on paye toujours la même chose en sécurité sociale en pourcentage, et en revanche, on est de moins en moins remboursé. Et donc, une partie de la population, celle qui le peut, se paye des mutuelles qui coûtent de plus en plus cher. Et la question là-dedans, la détermination du coût des soins, elle n'est absolument pas envisagée. J'en ai parlé tout à l'heure un peu en disant qu'il était absolument anormal que l'on finance la construction et l'entretien des hôpitaux sur le remboursement des soins prescrits et réalisés. C'est quelque chose d'absolument anormal. Et l'autre chose, c'est qu'on ne se pose pas la question du coût des matériaux médicaux, du coût des médicaments. Tout ça, c'est passé sous silence. Et la véritable question pour la sécurité sociale, c'est que doit-elle prendre en compte ? Et là-dessus, je mettrai en garde contre certains qui parlent et qui se veulent de gauche, d'ailleurs, et qui parlent de panier de soins. Très clairement, non. Non au panier de soins minimum. Non. Non, 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 c'est tout. Soit les professionnels de santé pensent que certains soins ne sont pas utiles et à ce moment-là, ils ne sont pas prescrits, donc ils ne sont pas remboursés. Soit les professionnels de santé pensent que c'est utile et à ce moment-là, ils doivent être remboursés. Après, on peut discuter du prix, effectivement, de tel ou tel vaccin, de tel ou tel médicament, parce que de tel ou tel test. Ça, on peut en discuter. Mais en revanche, on ne doit pas discuter de son remboursement. Parce qu'actuellement, qui en fait les frais ? Eh bien, ce sont les patients. Ce ne sont pas les labos et pas ceux qui discutent du panier de soins. C'est clair. Voilà. Sur les mutuelles, la véritable différence entre la sécurité sociale et les mutuelles, c'est que la sécurité sociale est égalitaire. Je cotise selon mes moyens. Les mutuelles et assurances sont inégalitaires, sauf quelques-unes. Sauf quelques mutuelles qui sont vraiment peanuts, toutes les autres sont inégalitaires. Ça veut dire que vous cotisez non pas selon vos moyens, mais selon votre risque. Si vous avez une famille de 3 enfants, vous ne payez pas la même chose que si vous n'avez pas d'enfants ou si vous avez une famille de 9. Et selon votre âge également, etc. La sécurité sociale, c'est selon votre non pas la composition de votre famille ou selon vos maladies, mais simplement selon votre salaire, vos revenus. Donc là, vos revenus salariaux d'ailleurs. Bon, et ça c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Mais c'est ça la grosse différence. Donc effectivement, le discours gouvernemental actuel, défendu par exemple par Martin Hirsch, mais d'autres, c'est de dire, bon, on va faire une sécurité sociale pour tous, mais ce sera une sécurité sociale au rabais et qui va augmenter la part qui ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale. Donc, il va augmenter les restes à charge. Donc, ça, il faut faire très, très attention. De la même manière que l'histoire
des 100% pour l'audioprothèse et pour les lunettes, en fait, c'est les mutuelles qui payent. C'est pas, donc, en fait, ça augmente la cotisation mutuelle, point final, pour tout le monde, et de manière inégalitaire.
Dans cet esprit-là, parce que je pense que c'est un point majeur. Comme le disait bien Jean-Luc, en 1945, le régime général c'est de la sécurité sociale, c'est une caisse unique qui regroupe différentes branches, famille, santé, vieillesse, accident de travail, qui est financée par un taux unique interprofessionnel de cotisation sociale et géré par les salariés. Il faut savoir, par exemple, qu'en prenant le chiffre de 1946, mais le revenu salarié d'une famille populaire de 3 enfants était constitué pour plus de la moitié par les allocations familiales. Donc on voit bien l'enjeu de la cotisation sociale. Or, la cotisation sociale, sous forme de salaire socialisé, est actuellement remise en cause, mais depuis plusieurs dizaines d'années, en fait. D'une part, pour raison de son coût salarial, il oblige en plus le patronat à assurer des situations hors emploi. J'ai face à moi les documents de la sécurité sociale qui s'intitule « Réduction du coût de travail selon le niveau de salaire en 2021 ». On a une réduction totale du coût du travail, on n'a plus de cotisation jusqu'à 1,5 fois le SMIG. Baisse du taux de maladie de 6% jusqu'à 2,5 fois le SMIG. Baisse du taux de famille de 1,8% pour tous les salaires. Donc on a une volonté de réduire le coût du travail qui est une constante dans l'histoire. L'autre raison, c'est que l'assiette sociale, c'est de toute évidence un manque à gagner pour le capital, notamment pour la rentabilité des marchés financiers. On voit tout l'intérêt qu'ils ont à récupérer les budgets des retraites et défendre une retraite par capitalisation au lieu d'une retraite par répartition. Et puis, il y a l'enjeu de la gestion aussi de l'assiette sociale du régime général qui a beaucoup évolué depuis 1945. Et puis, moi, je reviens quand même sur ce thème-là. Il y a une raison idéologique, c'est la dimension anticapitaliste de la cotisation sociale. Et cette dimension-là, elle est beaucoup défendue par certains auteurs actuellement, je pense notamment Bernard Friot, le réseau Salariat, et même par Frédéric Lordon, qui reprend l'enjeu de la cotisation sociale et du salaire socialisé comme étant un des éléments importants d'une modification sociale majeure.
Il y a aussi un effet pervers des mutuelles, c'est que avec le contrat d'accès aux soins et puis après l'OPTAM,
oui,
et qui a été institué d'une part par la gauche et ensuite par Macron, fait que maintenant les cotisations des mutuelles ont encore augmenté et viennent justifier les dépassements d'honoraires puisque certaines mutuelles les prennent en charge. Donc ça va là en contresens de la suppression des dépassements d'honoraires.
Et pour se détendre un peu, on va faire une deuxième pause musicale avec la chanson « Docteur » de Pierre Perret.
Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crasse. Quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Aussitôt j'ai la vue qui baisse, les nerfs qui lâchent, l'œil qui tressaute. Je sens mon sang qui tourne en graisse et mes tabourets qui se dépotent. Docteur, quand je m'ennuie j'ai faim. Quand j'ai faim je mange, quand je mange j'ai soif. Quand j'ai soif je bois. Docteur, quand je bois je me sens seul. Quand je suis seul je m'ennuie comme une enclume, alors je fume. Dès lors mes doigts de pied sont brûlants et j'ai le fer à souder qui se bouche. Et je sens nettement mes globules blancs qui se font des toasts avec les rouges. Docteur, je dois être amoureux. J'ai une fièvre de cheval et je perds tous mes plumes dans le bouillon de légumes. Docteur, la faiblesse me gagne. Je me sens plus bas qu'un taux de caisse d'épargne, alors je fume. Mais je pousse encore, c'est la tempête. Et quand j'ai craché tout le bottin, j'ai les soufflets sous les côtelettes qui s'usent comme des plaquettes de frein. Docteur, je digère très mal. Et quand je vais au bal, si je digère mal, c'est une vraie vacherie. Docteur, y a des bruits bizarres. Et pour pas que ma cavalière se marre, alors je chante. Mais dès que je chante, ça me donne soif. Et quand je bois, je me sens vite seul. C'est quand je suis seul que je me consume. Et c'est pour cette raison que je fume. Docteur, en plus de ça, je dors pas. Et moi, quand je dors pas, je me casse pas la tête, je prends une cigarette. Docteur, je me refous à tousser. Ma tension monte et je deviens sourdingue et ça me rend dingue. Je sens bien que je me barre de la tige, ça me fout le bourdon dans la théière. Je suis gay comme un mec de 100 piges qui vient de signer une rente viagère. Docteur, en plus de ça je joue. Quand je joue je tremble, quand je tremble je bois, quand je bois j'en renverse. Docteur, ces choses-là m'ennuient. Quand je m'ennuie je remâche mon amertume, alors je fume. Et je tremble à nouveau, quel malheur, comme la bicoque d'un garde-barrière. Mais je fumerai plus, c'est la dernière, je vous le jure sur mon percepteur. Docteur, j'ai tant d'amertume. Je me dis qu'après tout, je m'en vais faire comme vous, je vais m'en griller une.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. On a dit beaucoup de choses, et est-ce que vous auriez quelques mots pour conclure ?
La définition des besoins de santé et la prise en charge par les citoyens des enjeux de santé est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir espérer des changements dans notre société. Je crois qu'il y a vraiment besoin, et j'espère que ces émissions y contribueront, il y a besoin de clarifier justement quels sont les enjeux politique de la prise en charge, de l'intéressement à avoir à tout le système de santé et aussi à agir sur les déterminants de santé.
Je mettrai en conclusion que globalement, le système libéral, y compris l'Europe, privatise tout pour en l'air les services publics. On le voit bien à SNCF, on voit bien à La Poste, on le voit partout, on le voit dans les télécommunications. Et malgré tout cela, reste une idée qu'en France, on n'est quand même pas si mal que ça, qu'on n'a pas un si mauvais système de santé que ça, qui est souvent le meilleur du monde, qui ne l'est plus, mais qui reste dans l'idée des gens. Je crois que cette idée-là, il faut leur montrer que le danger libéral est fondamental et qu'il faut absolument lutter contre, parce que lui, il ne s'oblige pas. On le voit bien dans le film La Sociale, ils sont armés et petit à petit, ils le font. Ils le font petit à petit et c'est là ça se voit beaucoup moins. On voit bien pour la lutte pour le maintien des hôpitaux. Hein, depuis combien d'années que les gens se battent pour sauver les hôpitaux et pour l'instant, ça ne bouge pas.
J'avais évoqué une offre de soins qui est actuellement inégalement répartie sur le territoire, et notamment sur les Pays de la Loire, où on avait, on trouve avec des taux de médecins généralistes et spécialistes qui sont largement inférieurs à d'autres régions. Puisqu'on se retrouve par exemple sur le département de la Mayenne avec un taux de médecins généralistes et spécialistes de l'ordre de 190 pour 100 000 habitants, alors qu'on a des taux en Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de 419. Et cette inégalité qu'on retrouve entre régions ou départements concernant les soins primaires, les médecins généralistes et les médecins spécialistes, on va le retrouver pour concernant d'autres soignants et pour, par exemple, aussi les lits d'hospitalisation. Puisque 1,6 million de femmes en France, habitant dans environ 13 000 communes, pour la plupart rurales, n'ont pas accès à une sage-femme. Et de même, la répartition des lits d'hospitalisation est assez anarchique. Si la France compte en moyenne autour de 62 lits d'hospitalisation pour 10 000 habitants, il est de 77 pour 10 000 habitants sur Paris, alors que la Seine-Saint-Denis, qui est quand même un département qui a besoin de lits d'hospitalisation, a un chiffre de 42 pour 10 000 habitants. Donc on voit bien que la répartition de l'offre de soins est anarchique sur le territoire et ne répond pas nécessairement aux besoins de santé de la population.
À chaque fois, je bondis sur ma chaise. Je pense qu'il ne faut arrêter, pour notre part, d'utiliser l'expression offre de soins, qui ne veut strictement rien dire. et même répartition moyenne de nombre inférieur à la moyenne ou supérieur à la moyenne. Est-ce que là où il y a la répartition moyenne, est-ce que les besoins de soins sont satisfaits ou non? Quand on dit par exemple qu'en Loire-Atlantique ou qu'en Pays de Loire, il y a un nombre inférieur de lits de réanimation par rapport au reste de la France, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à cela. Et moi, je crois qu'il faut parler de réponse aux besoins de soins et surtout pas d'offre de soins. Parce qu'en plus de ça, dans offre de soins, il y a offre de soins publics et offre de soins privés. Et on fait un amalgame dans tout ça. Et j'ai bien insisté là-dessus tout à l'heure en disant attention, ce n'est pas la même chose. Déjà, je vais le faire exprès. Là, j'aime bien que ça provoque. Comme je mets en doute les économistes pour faire des prévisions sur l'économie et apporter des solutions, je mets en doute les professionnels de santé publique pour évaluer les besoins de santé. Je pense qu'il est très important, alors quand je dis ça, je force le trait, qu'ils le fassent et qu'ils fassent leur boulot très bien, mais que ça passe par le crible de l'action citoyenne, en disant ben non, là ce que vous avez prévu, ça ne marche pas, ça ne s'affaire. C'est ça. Il me semble que c'est ce jeu-là qui est un jeu démocratique et qui nous permet, comme le disait Pascal tout à l'heure, de travailler à la cohésion sociale.
Effectivement, il faut être très prudent vis-à-vis de ces chiffres. Mais malgré tout, on a parfois besoin quand même de données objectives et un certain nombre de marqueurs pour établir une politique de santé, en sachant que l'objectif quand même est de répondre aux besoins de santé de la population et de réduire les inégalités sociales de santé. Nos tutelles utilisent parfois un autre marqueur, qui est le taux de fuite. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde par exemple sur un département de Loire-Atlantique, on peut s'apercevoir que un certain nombre de patients proviennent de d'autres départements et que les patients qui devraient être soignés, par exemple, en Sarthe ou en Mayenne, ne sont pas soignés en Sarthe ou en Mayenne, mais sont soignés sur le département de la Loire-Atlantique. Et de même, on s'aperçoit que très peu de patients de Loire-Atlantique vont se faire soigner en Mayenne. Donc, c'est un marqueur qui est utilisé pour nos tutelles pour répondre que la population migre pour trouver d'autres offres de soins et de montrer et s'apercevoir que l'offre de soins sur une zone géographique particulière n'est pas du tout adaptée.
Merci à tous les trois d'être intervenus pour cette émission. Pour conclure, en France, l'évasion fiscale est très importante et l'État français a fait le choix de ne pas récupérer, ou très peu, les euros de l'évasion fiscale, en permettant l'optimisation fiscale. Un dernier point pour situer le contexte, les fonctions régaliennes, c'est-à-dire constituant un minimum d'intervention de l'État, sont la police, l'armée et la justice. L'éducation, la santé, toujours dans une logique libérale, relèvent des choix individuels. En France, à ce jour, par idéologie libérale, la privatisation de la santé et de l'éducation est bien avancée. Lors de chaque émission, nous consacrons un petit temps sur cette spécificité nantaise qui est de vouloir construire un CHU sur une île. Aujourd'hui, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, nous allons parler finances publiques et financement du nouveau CHU.
La construction du CHU sur l'île de Nantes illustre parfaitement la politique de basculement de la santé publique vers la santé privée. Le CHU sur l'île de Nantes coûtera plus de 1,2 milliard d'euros. Ce montant en soi n'est pas un problème. Ce qui interpelle, c'est qu'une partie non négligeable de cet argent va être dépensée inutilement pour consolider et nettoyer le sol. Également, des dépenses supplémentaires de voirie, 300 millions d'euros, ont été votées pour l'accessibilité à ce site qui, malgré ses nouveaux transports, restera enclavé et difficile d'accès. En prévision de la construction de ce nouveau CHU, il a été demandé au CHU actuel de faire des bénéfices. On en revient à la notion d'hôpital-entreprise dont ont parlé nos invités aujourd'hui. Et tout le monde sait que pour faire des bénéfices, il faut des recettes qui soient plus importantes que les dépenses. Les recettes d'un CHU sont en fait la rémunération des actes prodigués par les soignants. Chaque acte de soin est tarifé, c'est ce qu'on appelle la T2A, selon des grilles tarifaires proposées par le ministère de la Santé. Le CHU de Nantes a suivi les recommandations de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et a dégagé un bénéfice en prévision de la construction du CHU sur l'île de Nantes en imposant des réductions d'effectifs, des fermetures de lits, des pressions sur les soignants, tout cela étant très dommageable pour les patients et aussi pour les soignants qui se retrouvent à gérer des situations catastrophiques. Quelques chiffres pour bien comprendre la pression et les contraintes que subit le CHU de la part de ses administrateurs. En 2019, le CHU de Nantes avait comme objectif une marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les coûts locaux, de 7,1%. Pour financer le futur CHU, il faudra que le CHU actuel dégage une marge brute de 10%, soit à peu près 3 points d'écart, ce qui est énorme. Je vous laisse imaginer ce qu'il restera de lits, de soignants et de matériel, genre couverture, gants, seringues, etc., quand le CHU aura atteint sa marge de 10%. Pas grave, dira-t-on. Il y a les hôpitaux et cliniques privées. Eux, ils ont les moyens et on est bien soigné chez eux. Alors je me fais l'écho de ce qu'ont dit nos trois invités du jour. L'hôpital public et l'hôpital privé, ce n'est pas la même chose. La santé privée est inégalitaire. Elle soigne en priorité les personnes qui ont de l'argent, et c'est inacceptable. Et les personnes qui ont conçu et mis en œuvre ce projet sur l'île de Nantes ne sont pas à la hauteur des enjeux majeurs qui sont aujourd'hui les nôtres. Concernant le financement du CHU de Nantes, sur l'île de Nantes, il faut savoir que les prévisions financières ne pourront pas être tenues. Et pour dire ça, nous n'avons pas besoin d'être devins, ni Madame Soleil. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir fait de grandes études en calcul. Passer d'une marge brute de 7,10 à 10% est quasiment impossible, et construire ce CHU pour 1,2 milliard est impossible également. Les coûts de construction vont être plus élevés. Et qui paiera ? Eh bien, c'est nous, le citoyen, la citoyenne, parce qu'au final, c'est toujours les citoyens qui paient.
Voici un extrait du livre « Notre argent public pour mieux vivre ensemble » de Vincent Drézé et Ophélie Vildet, lu par Alain.
Souvent occulté dans le débat public, le contrôle de la dépense publique constitue le pendant évident de celui des ressources. Il doit être organisé de telle sorte que les citoyens soient certains que l'argent public est bien utilisé, conformément aux choix démocratiques et aux règles de droit. En la matière, le rôle des juridictions financières, Cour des comptes et Chambre régionale des comptes est essentiel. Le contrôle citoyen vise à améliorer le niveau global de connaissance des enjeux, pour que le débat public soit mieux éclairé. Et cela, afin que chacun puisse s'exprimer et faire ses choix en connaissance de cause. Ce contrôle s'exerce évidemment lors des élections, locales et nationales, qui sont l'occasion pour les citoyens de faire valoir leur point de vue.
Ce problème du contrôle des dépenses publiques ne devrait-il pas être au cœur de la campagne électorale actuelle ? Ce n'est pas le cas, et pourtant, c'est un problème essentiel.
Pour alimenter la réflexion, un extrait du livre « Anti-manuel d'économie » de l'économiste Bernard Maris, assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Cet extrait est lu par Mathieu.
Les présomptions d'efficacité et d'inefficacité sont au cœur de la rhétorique économique. Exemple, la dépense publique est a priori inefficace, inutile et contre-productive. En revanche, la consommation privée est une bonne chose. Le privé est a priori efficace et le public inefficace. Eh bien, c'est faux. La gabegie est généralement privée, la fraude, la corruption, et ensuite efficace ne veut rien dire. Efficace, dans le sens qui a un effet, est un terme valise qui ne peut être apprécié que dans un univers statique et jamais en absolu.
À chacun, à chacune, de se documenter et de réfléchir à la société que nous souhaitons pour demain. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine et le sujet sera la précarité en santé. Au revoir.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter Le cri du bistouri, une émission du collectif CHU Action Santé qui regroupe Attaque 44, la FSU, la CGT de Nantes, Nantes en commun, Saint-Herblain en commun, avec EELV Nantes, Ensemble, la France Insoumise Nantes, le NPA Nantes et Youth for Climate Nantes. La semaine prochaine, à partir de 18h toujours, vous pourrez écouter la quatrième émission du cri du bistouri. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.